Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Idées Neuves. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver un psychologue, coach et formateur. Il est déjà intervenu sur cette antenne, c'était un grand bonheur de pouvoir partager différents sujets de vie avec lui. Bonjour David Polis, comment vas-tu ?
Bonjour Nathalie, je vais très bien, merci.
Alors cher David, puisque nous avons beaucoup abordé ensemble, et pas seulement à l'antenne avec les auditeurs, mais nous, de manière plus intime, le sujet de la sexualité, qui pour toi est un sujet presque primordial dans une vie, dans un épanouissement, dans une quête de soi, et à travers peut-être la démarche tantrique. Aujourd'hui, on a souhaité aborder le sujet de la sexualité masculine sacrée, parce que peut-être que les femmes aujourd'hui sont très nombreuses à se rendre à des stages de tantra, ou en tout cas avoir une démarche de compréhension de leur modèle autour de la sexualité. On a voulu peut-être aborder cette question pour les hommes, pour le masculin. Toi, tu réunis des hommes, tu travailles avec des groupes d'hommes. Alors explique-nous le thème de la sexualité masculine sacrée. Depuis quand est-ce que c'est dans ta vie ?
C'est dans ma vie depuis 10 ans, on va dire, 10, 12 ans maintenant, même 12. Et ce qui me semble important, déjà le mot tantra n'est pas de notre culture. Sexualité sacrée, on entend vite déjà sexualité sacrée, il y a quelque chose de religieux dans ce terme-là, et ce ne sont pas des termes que j'apprécie particulièrement. Je préfère largement l'expérience plutôt que l'étiquette, et je dirais que le tantra, normalement, c'est un terme sanskrit, et ça signifie une méthode, une technique. En fait, c'est une technique de sexualité. Mais avant tout, c'est un chemin, une voie de transformation. Voilà, c'est une voie de transformation en intégrant la sexualité. Et c'est très proche, en fait, de la méditation. C'est beaucoup de présence à soi, de tranquillité. Donc, c'est une méditation. C'est de la méditation, en fait. Voilà. Et intégrer à tous les éléments de la vie, dont la sexualité. Donc, c'est pour ça que quand on résume tantra et sexualité sacrée, pour moi, il y a un raccourci qui est faux quelque part. Voilà. Et puis, dans sexualité sacrée, la sexualité, ce n'est qu'un comportement, en fait, appliqué au sexe, on va dire. Mais on oublie le sexuel, quelque part, c'est-à-dire la pulsion, c'est-à-dire tout ce qui peut être bridé ou favorisé par la société. Ce qui va favoriser la pulsion, par exemple, une certaine forme de pulsion, ça va être le porno. Ce qui va favoriser la pulsion, ça va être la libération depuis les années fin 60. Donc ça va libérer la pulsion. Mais il y a aussi quelque chose qui contrôle la pulsion. En tant que psy, je dirais que c'est le surmoi. Voilà, c'est un terme un peu technique, mais ça va être des règles qui vont quelque part soumettre l'individu. Qui vont le limiter. Eh bien, le tantra, ce n'est ni à gauche, ni à droite, ni le porno, ni le respecter toutes les règles du monde, mais ça va refixer un équilibre intégrant la méditation, intégrant la sexualité, et un équilibre homme-femme. Donc ça, c'est très touchant, je trouve, quand on fait ce chemin du tantra. Il y a un équilibre qui dans notre société n'est pas réel. On parle dans notre société de l'équilibre des salaires hommes-femmes, moins 30% pour les femmes. On parle dans la religion, par exemple, c'est vraiment le patriarcat qui domine dans la religion, dans la famille. Eh bien, le tantra va inviter à un équilibre homme-femme qui est, il me semble, plus juste dans une relation. Voilà, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Donc moi, j'ai fait ce chemin-là il y a 10-12 ans, lorsque j'étais dans une belle période de crise de couple. Et ça m'a permis, je me suis ouvert pour pouvoir regarder un champ qui est quand même sans... La sexualité, c'est quand même central dans le couple. Donc ça permet de faire un chemin, une certaine remise en question.
Alors central, sauf si des gens décident de ne pas avoir de sexualité,
oui,
ça existe.
Oui, tout à fait. C'est même un choix. Malheureusement de plus en plus fréquent, et je peux le comprendre. C'est-à-dire, je peux le comprendre, et à la fois, cependant, il y a un chemin à faire d'ouverture, parce que c'est ça. En tout cas, le tantra vient questionner la place de la sexualité pour soi et dans la relation à l'autre. Et c'est quand même une énergie qui est très intime. Oui. Donc investir de l'intime avec l'autre et le regarder, mettre des mots, mettre du ressenti, s'ouvrir sur des plans subtils, ce qui est quand même un tantra évolué, on va dire, mais déjà ne serait-ce que mettre des mots.
Non, mais rien que le questionner. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, David, on est en 2017 et le sujet de la sexualité, il est encore très tabou, c'est-à-dire qu'on fait l'amour sans vraiment avoir appris à le faire, peut-être justement en reprenant les modèles qu'on a pu avoir au sein de du porno ou à travers peut-être les quelques conversations qu'on a eues, mais pas toujours avec un regard éclairé. Donc on fait l'amour sans vraiment savoir comment faire l'amour, comme on tombe amoureux sans savoir quelle est la vraie recette de l'amour ou d'une relation de couple qui puisse durer, ou comme le bonheur. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte dans cette société qu'on investit pour apprendre à faire beaucoup de choses, mais pas les choses qui sont essentielles. Mmh. Et la sexualité est une chose essentielle. On aurait peut-être à un moment tous à rencontrer un sexologue, un psychologue, un thérapeute qui puisse nous éclairer sur cette question-là, parce que finalement, apprendre à bien faire l'amour ou à questionner notre rapport à la sexualité, bah, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se met en lumière et qui demande de la lucidité aussi.
Oui, je suis touché par ta phrase « bien faire l'amour ». Parce que, en tout cas, là, j'oriente par rapport au tantra, hein, mais c'est il y aura ni bien ni mal, en fait. On fait l'amour. Mais je réagis aussi sur « bien faire l'amour ». Je crois que le tantra, on va plus faire l'amour, en fait. Dans un état où on va intégrer de la méditation dans le sexe, hein, dans la sexualité, c'est plus un état d'être, en fait. Donc, il y a une transformation de faire l'amour à être amour. Et du coup, il y a une tranquillité, il n'y a plus l'acte est présent, mais presque secondaire, à l'état d'être qui va émerger. Je te vois sceptique, questionné. Je vois bien ton regard qui comprend peut-être pas, mais en tout cas c'est une transformation importante. Bien sûr, il y aura des mouvements, il y aura du frottement, mais on passe de l'âge de pierre, l'âge du frottement, à un état qui est plus subtil et de présence à l'autre et de présence à soi, sans chercher, par exemple, à faire l'amour ou à faire jouir sa partenaire. C'est même pas ça l'intention. L'intention, c'est d'être avec l'autre. Et voilà, ça change une vibration intérieure, un rythme dans la relation. On a le temps. Voilà. Donc c'est pas, je sais plus, la moyenne d'un rapport sexuel, c'est environ 10 minutes. Dans le tantra, 10 minutes, c'est on se dit bonjour, hein, on est en contact. Ça va être 3 heures, ça peut être 4 heures, ça, on a du temps, quoi. Et je dirais même, le temps importe peu. On est là ensemble. C'est comme si on était deux petits vieux qui allaient marcher main dans la main, en train de faire une balade dans la nature. Eh ben, on va pas regarder sa montre pour dire « Ah, faut rentrer pour manger ». Non, c'est bon, c'est là, et c'est une vraie balade. Donc c'est pour ça que bien faire l'amour, c'est pour moi, je comprends pas. Je comprends à un certain endroit, et à la fois, c'est déjà pas mal de bien faire l'amour. Mais être.
Non, mais c'est pas la question du bien, du bien ou du mal. Ouais,
tout à fait. Et pour revenir aussi sur un autre sujet, du moins sur ce que tu as abordé, c'est moi, ce qui m'a touché, j'ai fait il y a 3 ans maintenant 2, 3, 4 forums. Forum bio, forum du bien-être, forum à Paris, à Vincennes ou à Porte de Versailles. Et je présentais mon groupe, mon groupe d'hommes. Alors je présentais d'autres choses également. Alors en sachant que le groupe d'hommes depuis début 2017 est maintenant un groupe mixte, hein, donc hommes-femmes, et c'est un groupe de parole, un groupe de développement personnel. Ce n'est pas un groupe de tantra, hein, ça voilà. Sur ces forums-là, il y avait 3000, 4000 personnes qui s'arrêtaient sur les stands. Et ce que j'ai observé, sur 3-4 jours, ce que j'ai observé, en fait, c'est que ce sont les femmes qui venaient avec leur homme et qui leur disaient « Ce serait peut-être bien que tu écoutes ce monsieur sur son groupe d'hommes, ça pourrait être intéressant pour toi. » Donc c'est tout le temps la femme qui amenait l'homme, tout le temps l'homme, qui disait non, mais je n'en ai pas besoin, non, mais ça va, quoi, j'ai pas besoin d'en parler, tout va bien, quoi. Et je voyais bien dans le non-verbal de la femme que ce serait quand même pas mal de se bouger, quoi. Eh bien, Je vois très peu d'hommes être en mouvement. Mon groupe s'appelle Cercle Mixte maintenant, mais auparavant c'était Cercle d'Hommes en Mouvement. Je vois très peu d'hommes en mouvement pour se questionner sur sa sexualité, sur sa façon de concevoir l'éjaculation, le plaisir, la jouissance. Quelle différence entre éjaculation et jouissance? Pour un homme, il n'y en a pas, ou très peu. Donc du coup, le tantra est un chemin homme-femme. Et les stages de tantra, pour la très grande majorité, sont en parité homme-femme. Et aujourd'hui, je connais très peu de groupes de thérapie ou des groupes de parole ou de développement personnel qui sont en parité. Je crois qu'il n'y a globalement que le tantra qui recherche là pour pouvoir travailler dans la relation homme-femme. Et c'est, voilà, en tout cas pour moi, ça a été 10-12 ans de travail, puisque j'ai arrêté depuis plusieurs années maintenant à la mort de la personne que je suivais. C'est plus de 10 ans de travail de façon engagée, et la sexualité est complètement modifiée dans le rapport à l'autre. C'est vraiment un chemin, voilà, au-delà du magnifique, c'est un chemin qui surprend.
Alors on en parlera, je pense, dans un deuxième temps. J'ai envie qu'on rebondisse juste sur cette idée de remise en question qui n'est pas toujours facile pour les hommes, justement. Et puis aussi revenir sur la question des stages de tantra et de l'offre aujourd'hui qui est proposée sur le marché. Moi, je t'avoue que quand je regarde un petit peu comment ça se passe ou que j'en discute avec des personnes, ça ne m'attire absolument pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut être clivant, la manière dont on propose de vivre le tantra, en quoi ça peut être même parfois très effrayant? Il y a certains stages où on va t'expliquer que... voilà, tu te fais effleurer par des hommes que tu n'as pas spécialement choisis, qui sont parfois beaucoup plus âgés. Voilà, quelque chose de, même de l'ordre du dégoût qui peut survenir. Oui. En tout cas, je parle de ma part. Peut-être d'abord sur la question de la remise en question chez les hommes. Qu'est-ce qui est si difficile à remettre en question dans une manière de fonctionner, que ça concerne la sexualité ou d'autres?
C'est super comme question. J'adore. Pour moi, il y a la remise en question pour un homme, à mon sens. Je peux me tromper, mais en tant que psychologue, je les vois bien arriver dans mon cabinet à certains moments de leur vie. C'est la crise. C'est une rupture, c'est un licenciement, c'est un échec professionnel. En gros, tant que ça tient, ça va. Voilà. L'homme viendra dans un vrai moment de crise. C'est valable aussi pour la femme, c'est valable pour le couple, mais il me semble que la femme va être plus à l'écoute naturellement d'une certaine remise en question. Il y a un peu plus d'ouverture. Et puis, il me semble que la remise en question est difficile parce qu'on est dans un modèle où l'homme n'a pas le droit d'être fragile. L'homme n'a pas le droit de pleurer. L'homme n'a pas le droit de... Il doit être fort. Il doit faire jouir. Il doit quelque chose. Il doit être fort auprès de la femme. Et je trouve que le tantra, c'est pas que ça, quoi. C'est même surtout pas ça. Il doit être, et même je vais retirer il doit, c'est est-ce qu'il peut revenir déjà à soi avant d'être en relation avec l'autre? Est-ce qu'il peut se laisser choisir par une femme? Est-ce qu'il peut fermer les yeux et se laisser surprendre par une femme âgée de 20 ans de plus que lui? Et par lequel il est surpris par la qualité de la peau qui vient toucher les mains, par la qualité de la subtilité avec laquelle la femme va venir vers lui. Et oui, cette femme a 20 ans ou 30 ans de plus. Parce que c'est aussi dans l'autre sens, hein. En tant qu'homme, moi j'ai moins de 50 ans, en tant qu'homme, ça va quoi, hein. Quand je faisais du tantra, je préfère largement que ce soit une femme de mon âge qui vienne vers moi plutôt qu'une personne de 70 ans. Parce que dans la rue, je la regarderai pas. Dans la rue, je n'irai pas la draguer. Dans la rue, je n'accepterai pas qu'elle me touche. Et même, je l'ignorerai. Sauf que ma plus belle expérience de tantra, c'est une femme qui avait 30 ans de plus que moi. Voilà. Donc, quand une fois que j'ai compris ça, il y a quelque chose qui bouge dans la tête. Il y a quelque chose qui bouge sur le regard que je peux porter à une femme. Qui n'est pas l'étiquette ou l'apparence, qui n'est pas son âge, qui n'est pas sa beauté, qui n'exclut pas l'âge, qui n'exclut pas la beauté, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ce n'est pas que ça. Il y a un être qui est bien au-delà de l'apparence. Là, j'ai en tête quelque chose que j'avais abordé dans la première émission en octobre, qui était le prince ou le masque, ou la princesse et le masque. Et c'est-à-dire que la beauté, l'âge, c'est un masque. Il y a des personnes qui sont jeunes et qui ont une vieille âme, qui sont sages déjà. Donc c'est ne pas s'arrêter au masque et se laisser surprendre par l'être. Et c'est ça le tantra. Alors, voilà un petit peu sur la première partie, et tu abordais aussi qu'il y a énormément de différences d'un stage à l'autre, je confirme. Voilà. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est en septembre ou en janvier l'année prochaine, d'ouvrir un stage de tantra. Voilà. Ça me semble juste dans mon parcours, suffisamment tranquille et suffisamment mûr. Aujourd'hui, je recommande des stages voilà, dans des stages qui, pour certaines personnes en France. Je pense à Laurent Lacoste, je pense à Jacques Ferber, qui sont des personnes vers qui je peux recommander certains de mes patients ou de mes connaissances vers ce type de stage. Il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres stages. Cependant, ce qui me semble important, c'est le tantra, ce n'est pas dans notre culture. Parler de méditation dans le sexe, ce n'est pas dans notre culture. Parler, etc., etc., c'est loin de tout ça. Moi, je dirais simplement, le tantra, c'est déjà oui, non. C'est tout. Mais c'est fondamental, fondamental.
C'est-à-dire,
si, admettons, tu vas dans un stage tantra, et un homme plus âgé que toi s'approche de toi et t'as pas envie. Je sais pas, le grain de sa peau, l'âge, t'as envie de le rejeter. Mais la première chose à apprendre, c'est de dire non. Pour une femme, dire non à un homme, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que le tantrika, il le sait. Le tantrika, c'est-à-dire, on va dire, celui qui a fait un chemin en tantra. Si la femme sait dire non, mais un vrai non, très clair, ben elle saura dire oui. Donc, mais ce sera un vrai oui. Et à partir de là, naît le tantra, naît le oui, donc l'amour.
La posture.
Et donc là, c'est l'ouverture. Voilà, donc là, on est... moi, j'adore, quoi, un vrai non. Mais pour un homme aussi, c'est difficile de dire non. Une belle femme vient vers moi, mais elle est vide. Elle vient avec... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cœur, il y a simplement... Bah, elle est attirée, mais elle est vide, il n'y a pas d'âme. Et j'ai pas envie. Ben oui, mais elle est belle. Donc, il y a des petites voix internes qui vont dire, ben oui, mais je dois pas, parce que sinon elle va pas revenir me voir. Ou... Mais oui, mais dire un vrai non, c'est-à-dire retirer sa main de ma main, où il y a d'autres postures plus impliquantes que la main dans la main, mais c'est déjà beaucoup la main dans la main, ou les yeux dans les yeux, par exemple. Eh bien, lui dire non. Par exemple, baisser les yeux. Arrêter de regarder cette femme, si la consigne, c'est de se regarder. Eh bien, pouvoir dire non, en tant qu'homme, c'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile. Eh bien, les stages de tantra vont à un premier niveau, j'ai envie de dire, il y a plusieurs niveaux, mais à un premier niveau vont remettre en question des fondamentaux. Est-ce que je me laisse approcher, alors pour moi en tant qu'homme par une femme, ou pour toi en tant que femme par un homme, est-ce que je me laisse approcher par une personne avec qui je n'ai pas envie d'être regardé, envie d'être main dans la main? Et on peut imaginer beaucoup plus. Hein, le tantra, c'est aussi ce que l'on appelle des structures, donc des propositions, dans lesquelles on va toujours être libre de dire oui ou de dire non, et à tout instant. Mmh. Et du coup, si ça, c'est la règle simple, eh bien, vraiment, en tout cas, si dans un stage de tantra, on ne dit pas ça comme règle, on oublie. Voilà, ça me semble important. Et j'ai comme exemple, juste un exemple d'une personne que j'accompagne, donc je vais pas en dire de trop, une femme qui me parle parfois de son couple, hein, dans un travail thérapeutique. Et dans le rapport de couple, elle est mariée de longue date, etc. Mais dans le rapport de couple, c'est est-ce que le oui et le non dans le couple peut exister? Et le tantra apprend aussi le fait de ne pas se justifier. C'est non. Et je suis tranquille avec ça. C'est non. Là, j'ai pas envie. Là, c'est non. Et d'ailleurs, dans le non, comme dans toute période de crise dans un couple ou de démotivation dans le travail, on peut avoir derrière une renaissance. C'est parce que je peux te dire non que je peux te dire oui, et le oui peut venir à 10 secondes après. Ce sera peut-être un autre oui. ce sera peut-être non plus venir l'un sur l'autre, mais juste se tenir les mains. Mais ce sera un vrai oui. Voilà. Voilà. Et ça, dans le tantra, c'est un chemin simple. Simple, mais hyper puissant. Oui, un vrai oui. Et dire oui, c'est une ouverture. Et on ne sait pas jusqu'où l'ouverture amène. Et non, c'est une ouverture aussi. C'est une ouverture à un autre oui par la suite. Et quand je dis oui, c'est une ouverture et on ne sait pas où ça nous amène, pour moi, c'est ça le tantra. C'est-à-dire se laisser surprendre par soi-même, par l'autre, et dès lors, la relation tantrique à l'autre, qui repose uniquement sur des vrais oui et sur des vrais non, c'est quelque chose de simple, c'est une surprise d'une relation pouvant intégrer la sexualité, tout le temps différente, tout le temps nouvelle. Parce que ce sont des micro-oui, des micro-non. Voilà. Et écouter, pour un homme, dans la sexualité masculine, écouter le oui d'une femme, et l'accueillir, l'accompagner, écouter son non, voilà, eh bien, ça change tout. Ça change tout, c'est moins brut, moins direct, moins l'homme va moins penser à la pénétration, l'homme va pas chercher à faire jouir l'autre, il va être déjà dans son petit oui et son petit non intérieur, et il y a quelque chose qui se tisse, qui est de l'ordre de la danse. Mmh. Hein, voilà.
Donc ça amène aussi finalement une qualité de relation intérieure, à savoir aussi le respect, puisque quand on sait dire oui et non, on instaure aussi un respect intérieur, donc on a l'écoute de soi, une écoute attentive. J'aimerais qu'on aborde voilà finalement les bénéfices de se remettre en question sur la sphère de la sexualité, de pourquoi pas s'ouvrir au tantra, et faire un parallèle aussi, parce qu'on a eu un invité il y a quelques temps qui nous a parlé de l'art taoïste de la chambre à coucher, et finalement dans les anciens écrits chinois, il serait dit que l'homme devrait absolument, comme un objectif premier, faire jouir la femme avant lui-même d'envisager sa propre jouissance. Mmh. Alors comment est-ce que toi tu te positionnerais finalement, pas toi personnellement, mais peut-être aussi vis-à-vis de la philosophie tantrique, est-ce que tu es d'accord avec cette proposition qu'ont fait finalement les Chinois à travers justement la médecine traditionnelle chinoise et l'art taoïste, voilà, et parler des bénéfices de ce que peut apporter une sexualité plus tantrique.
Alors, je ne sais pas si l'art taoïste, je n'ai pas lu sur le sujet, je suis formé en médecine chinoise, en partie sur le shiatsu, mais qui n'intègre pas, donc l'acupuncture avec les doigts, mais qui n'intègre pas le sexe, hein, ni le cerveau, c'est-à-dire des organes qu'on ne touche pas en shiatsu, en fait. Mais l'art taoïste, je ne sais pas si l'art taoïste dit « faire jouir l'autre ». Parce que, pour moi, je ne peux plus faire jouir. C'est incohérent. C'est simplement être jouissance. C'est je suis le toucher, je suis le baiser, je suis la pénétration, je suis présent à l'autre comme l'autre est présent à moi. Mais je suis, dans l'instant-là, je suis ce que je fais, quoi. Et je ne fais plus rien. Il y a quelque chose qui se tisse. Alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais je suis vraiment présent à l'autre. Je ne cherche pas à faire jouir. Voilà. Je cherche simplement à parcourir un chemin de petite jouissance à moyenne jouissance à grande jouissance et à une fontaine de jouissance. Voilà. C'est vraiment un chemin. Mais la jouissance tantrique, elle est déjà à distance, elle est dans un regard, elle est même pas dans le toucher. J'étais en relation de couple avec une femme profondément tantrique pendant plusieurs années. Je vois cette femme, je la croise, rien qu'à distance, il y a déjà des vibrations qu'elle ressent et que je ressens, qui sont proches d'une jouissance. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à toucher, et c'est suffisant comme ça, il y a déjà quelque chose qui se passe, parce que la relation tantrique fait naître quelque chose qui est de l'ordre du subtil.
Un lien.
Oui, un lien. Alors là, tu m'as amené sur le champ du Tao. Là, j'amène sur la physique quantique. On est sur quelque chose de même à distance. Il y a quelque chose qui passe. Mm-hmm. Hein, la physique quantique parle des neutrinos, par exemple. Il y a quelque chose qui passe à notre insu. Et c'est ça la relation tantrique. J'ai envie de dire. Haute, c'est-à-dire quand on laisse venir cette jouissance, la petite, voilà, simplement de voir l'autre, simplement de toucher l'autre, simplement d'accueillir l'autre, par exemple en tant qu'homme, plutôt que de chercher à pénétrer madame, de la laisser venir quand elle se sent, elle, ouverte. Mais ça change tout. C'est simplement j'accueille l'autre. Donc je ne vais pas chercher à pénétrer l'autre, je vais accueillir l'autre quand elle le voudra bien, si elle le veut. Parce que dans le tantra, dans les stages de tantra par exemple, c'est habillé, il n'y a pas de pénétration. Donc, c'est-à-dire, c'est l'amour autrement. Voilà, voilà, peut-être
oui, l'amour autrement.
Être amour autrement. Mm-hmm. Voilà. Et,
Que finalement, l'un des premiers objectifs de la sexualité, comme on la considère actuellement, c'est d'apporter du plaisir. Donc, est-ce que finalement, on rejoint aussi cet objectif à travers la démarche tantrique? Quelle place pour le plaisir, finalement?
Alors, énorme.
Énorme.
Au-delà même de tout ce que l'on connaît en tant qu'Européen bien formaté, hein, par l'éducation, la société, par les religions, par toute une histoire qui est noble, mais bien au-delà. Moi, je dirais qu'on passe de l'âge de pierre de la sexualité à l'électricité ou à la bioélectricité, pour un petit jeu de mots, avec l'interrupteur, voire avec sa propre centrale nucléaire. Mais c'est vraiment ça, quoi. On est dans une sexualité de l'âge de pierre, quoi. Ça frotte. Super. Et ben là, c'est vraiment être proche de sa centrale nucléaire qui est située au niveau du périnée, mais peu importe les zones, mais quand même proche du sexe, hein, qui n'est pas le sexe, hein, qui est situé proche du sexe. Et à partir de là, en tout cas pour l'homme, pour la femme c'est un autre chemin, mais pour l'homme, c'est pouvoir monter dans le ventre, monter dans le cœur, c'est-à-dire souvent, c'est déjà l'homme... Excuse-moi de l'image qui me vient, mais c'est l'homme qui a la trique. C'est pas l'homme tantrique, hein, c'est l'homme qui a la trique et qui va monter petit à petit à l'homme tantrique, c'est-à-dire au cœur. Là, souvent, où la femme est ouverte dans la relation, et l'homme va passer de la trique au cœur et au tantrique, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Et là, on parle de méditation, on parle de prière, et encore plus haut, c'est-à-dire de connexion au tout. Et là, j'ai envie de dire.
C'est l'extase. Ça, c'est l'extase, c'est un mot qu'on aurait du mal à employer dans une sexualité, comme tu dis, peut-être de l'âge de pierre, parce que l'extase, finalement, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Mais je pense que ça peut être le bon mot pour décrire ce qu'on peut atteindre, en effet, quand on élève la sexualité à une ouverture spirituelle et totale.
Ce qui vient, extase, grâce, religion, parce qu'on est relié au tout à cet endroit-là. Spiritualité, parce que on intègre spiritualité, donc souffle, hein, donc on intègre la respiration et on est vraiment, c'est un état d'ouverture, et je dirais aussi qui nourrit autrement, voilà. Et une partie de ta question était aussi non pas sur le Tao mais sur l'homme, quel est le bénéfice de l'homme pour l'homme.
Oui.
Je peux aborder les bénéfices pour la femme, mais déjà ça me semble important de parce que c'est tellement rare qu'un homme s'ouvre à autre chose que ce qu'il connaît. Mais le bénéfice pour l'homme, c'est par exemple de questionner jouissance, extase et éjaculation. Voilà. Dans le tantra, l'éjaculation est dans une zone du sexe, et on pourrait dire que c'est l'éjaculation vient d'un temps de plaisir et d'excitation dans une certaine zone, et qui amène à une expulsion de cette énergie-là. Dans le tantra, la question serait, à un homme serait, est-ce que cette énergie-là, tu peux l'inviter dans le cœur et ouvrir grand le cœur, ou bien est-ce que tu peux redescendre dans les pieds et adoucir cette zone de tension, hein, les pieds étant une forme du prolongement du sexe, et de cette zone en tout cas, et donc adoucir cette tension, donc de détendre l'érection et de détendre l'éjaculation qui arrive. Et la détente dans la tension, bah pour un homme, c'est juste génial. Ça veut dire qu'il y a un questionnement sur est-ce que je peux faire quelque chose de mon éjaculation à venir ? Et alors, excuse-moi, je ne sais pas quelle heure il est, mais ce n'est pas forcément très sérieux.
Bon, d'abord, on le diffusera
d'abord le soir. Tu vas être interdit moins de 16 ans. Hein. Mais en tout cas, rien pour un homme de pouvoir se dire, façon de parler, j'ai la main sur mon éjaculation. Je peux faire redescendre et adoucir. Je peux faire remonter et ouvrir. Et plus l'invitation de cette bioélectricité, plus on la remonte, plus il y a une ouverture qui peut amener à une autre forme de jouissance. La jouissance dans le cœur, un homme qui ouvre son cœur, la femme le ressent dans le quart de seconde. Et c'est un lac, c'est un océan de tranquillité plutôt qu'un océan d'excitation. Et cet océan de tranquillité, d'ouverture, c'est ça l'amour. Et cette ouverture-là, comme la femme est naturellement connectée à cet endroit-là, dans la relation et dans une relation choisie, adulte à adulte, etc., etc., ben la femme, elle le connaît, ça. Mais elle ne le connaît pas forcément avec l'homme. Mais une fois qu'elle va voir l'homme à cet endroit-là, soit la femme, elle peut vraiment descendre dans le sexe, soit elle peut encore faire monter à l'étage supérieur. Et on est proche d'une prière, vraiment à l'étage supérieur, ou bien si la femme redescend dans son sexe, c'est aussi magnifique parce qu'il va y avoir une forme d'excitation, sauf que l'homme sera dans le cœur, donc les polarités seront inversées, la femme dans le sexe c'est et l'homme dans le cœur, hein, attention, la femme dans le sexe et l'homme dans le cœur, c'est une polarité qui permet, à mon sens, à la femme d'être puissante, à la femme d'exprimer la puissance féminine, à la femme d'exprimer une forme de colère, hein, de saine colère, pas la colère qu'on connaît dans nos cultures, mais
bon, c'est toujours sain, hein, de toute façon, de l'exprimer.
Mais oui, et donc de la permettre dans la relation avec l'homme. Et là, la femme est puissante. Et l'homme peut accueillir cette puissance-là. Et je pense... Je ne sais pas ce que disent les écrits et ce que diraient les anciens sur le tantra, hein, puisque c'est millénaire. Je pense qu'à cet endroit-là, la femme est aussi pleinement femme avec sa colère, sa puissance, ce que dans notre société, c'est assez peu permis. Parce qu'en fait, la femme doit être belle, la femme doit être bien habillée, la femme doit être souriante, la femme doit être gentille, etc. Mais non, stop, c'est pas ça une femme. C'est aussi une femme avec sa colère, son nom, un vrai nom, quoi. Voilà pour moi l'avantage. Alors, je suis parti de l'éjaculation pour l'homme, hein, je suis désolé, mais en montant et en descendant.
Alors, cher David, avant de se quitter, peut-être qu'on pourrait justement donner un petit exercice pratique aux auditeurs pour pouvoir expérimenter, puisque tu parles de l'expérimentation comme finalement la seule source de connaissance. Voilà, on a évoqué ce sujet légèrement en théorie, même si là tu viens de donner quelques pistes pour pouvoir l'expérimenter. Voilà, pour les gens qui ont écouté cette émission, qui souhaitent là ce soir attendre leur conjointe ou leur conjoint, ou même retrouver pourquoi pas leur amant, voilà, explique-nous un petit exercice qu'on pourrait faire qui serait simple et qui nous permettrait d'élever justement cette sexualité.
Pour moi, je vais rester avec des choses que j'ai pu déjà aborder là, comme ça, ce sera simple et cohérent avec ce qui a été abordé. Moi, je dirais simplement inviter l'autre. Souhaites-tu qu'on passe un temps juste à deux maintenant ? L'inviter, faire une demande. Et l'autre va peut-être dire non. Donc déjà, écoutez ça. Non, j'ai pas envie de toi maintenant, quoi. J'ai envie de manger. Bah oui, pourquoi pas, et déjà c'est tantrique. Et puis l'autre, après s'être rassasié, va peut-être dire « ça tient toujours ta proposition ?» Voilà. Donc déjà, là on est dans le tantra pour moi. Et puis ensuite, aller au lit habillé. Ne pas se déshabiller, ne pas déshabiller l'autre. Déjà habillé, alors peut-être retirer la veste ou voilà, chaussures, heureusement, quoi, hein, ou les chaussettes, c'est-à-dire mettre un peu de confort, mais ne pas chercher à déshabiller. Par exemple, pour moi, ça c'est juste un trick aussi. Et à partir de là, proposer. Alors, avec les mains ou avec la parole, qu'est-ce qui serait bon pour toi ? Moi, je ressens, et se positionner, moi je ressens que j'aurais envie de te toucher un peu partout, mais sans t'exciter. Le tantra invite à de la non-excitation, mais une autre forme d'excitation. Sans t'exciter. Ah oui, ça me va ce que tu me proposes. Ah, un vrai oui. Eh bien, passer les mains sur les vêtements, voilà. Et puis peut-être qu'à un moment donné, madame va retirer sa jupe, ou ses collants, ou son pantalon, ou ses chaussettes, ou j'en sais rien. Eh bien, l'homme à cet endroit-là, s'il peut ne pas être excitation, même s'il bande, pardon du terme, mais s'il peut ne pas être excitation et continuer à toucher madame tranquille, tranquille, eh bien, peut-être qu'elle va retirer son corsage et son soutien-gorge, s'il y en a un. Et
son corsage, on n'est plus...
Alors son chemisier,
c'est plutôt son chemisier, temps,
son t-shirt. Ouais.
Raison, ouais.
Et pouvoir continuer le toucher et laisser ce chemin se faire. Eh bien, si à cet endroit-là, ce chemin peut partir de cette non-excitation, même si monsieur bande, et que monsieur peut aller jusqu'à une pénétration où c'est madame qui va venir vers lui, où madame va lui rendre l'appareil, c'est, lui il sera toujours habillé, eh bien il sera allongé et il ne va pas chercher autre chose que de laisser le chemin se faire. Et ben là, on a un exercice tantrique simple. Voilà une idée, tout simplement.
Super idée.
Voilà.
Voilà, à mettre en œuvre, eh bien, dès que vous aurez envie, justement, puisque tu nous parlais du oui et du non, dès qu'un oui sera vif et plein d'élan, justement, n'hésitez pas à mettre en pratique, eh bien, tout ce qu'on a pu aborder tout au long de cette émission. Alors, cher David, on te retrouve via un site internet, c'est www.co-option.com. On peut y retrouver toutes tes coordonnées pour réagir à cette émission, pouvoir, pourquoi pas, prendre contact avec toi.
Je ferai une conférence, je pense début juillet, le 3 juillet, uniquement sur ce thème également. Donc 2h, 2h30, uniquement sur ce thème à Paris, le soir.
Donc on pourra retrouver toutes les infos utiles via ce site internet qui est www.co-option.com. Merci David Polis pour toutes ces informations et finalement de nous donner envie d'avoir envie de s'ouvrir différemment justement à notre sexualité et peut-être changer les schémas, les habitudes, parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui sont extrêmement sclérosées dans nos sexualités respectives. Voilà, donc au moins ça met un petit peu de dynamisme et de changement, et ça invite, en tout cas encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, mais ça invite et ça donne le goût de faire peut-être les choses différemment et de s'ouvrir à cet inconnu. Donc merci pour cette proposition. Chers auditeurs, on vous souhaite de passer une merveilleuse journée, soirée, et à très bientôt David.
À très bientôt Nathalie, au revoir.